Bonjour, c'est Ivan Kolpakov ici pour le Quart d'heure américain. Si vous me permettez, je voudrais vous poser une question personnelle. Elle concerne l'amour. La question est la suivante. Est-ce que vous aimez votre pays? Ouf, vous dites, ce n'est pas si personnel que ça, la question. Et pourtant, votre réponse révèle votre attachement, votre fidélité et votre soutien à votre pays. Alors, sans réfléchir, quelle est votre réponse? Oui ou non? Si vous dites oui, c'est parce que vous pensez à tout ce qui vous plaît dans votre pays, tout ce qui est généreux et ce dont vous en profitez. Si votre réponse est non, alors là, il y a de fortes chances que vous focalisez sur tout ce qui ne va pas, sans forcément évoquer le gouvernement. Mais les inégalités, et en général, un système où les priorités favorisent qu'une tranche de la population, donc vous ne faites pas partie. On voit assez rapidement à quel point la réponse est intimement liée à la situation de chacun. Si on est bien à l'aise dans sa vie ou non. Il y a toujours des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas dans notre pays. En fait, ce n'est pas le pays lui-même que l'on aime ou n'aime pas. Le pays est pour rien. Ce que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est ce qui se passe dans ce territoire qu'on appelle mon pays. On peut bien aimer son pays et en même temps ne pas être content avec plein de choses. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment aimer ou ne pas aimer de notre pays? Ça peut être quelque chose aussi banal que le climat. « Oh, il fait si beau ici. »« Non, il pleut tout le temps. » Ça peut être la beauté des paysages dans toutes ses formes ou de la végétation avec des bois et forêts. Mais si on va bien au-delà du climat et de la topographie et de la végétation, en fin de compte, ce sont les gens et ce qu'ils font qui nous plaît ou qui nous irritent et qui nous met en colère. C'est à peu près partout dans tous les pays du monde. Je me souviens de mon arrivée en France la première fois. J'avais quitté les États-Unis pour refaire ma vie loin des valeurs et de la façon de vivre qui ne me convenait pas. J'étais avide de ressentir les premières impressions de la vie à la française. J'avais commencé à en chercher depuis le hublot de l'avion lorsqu'il préparait sa descente vers Paris. Les premières vues m'ont offert le tableau d'un paysage agréablement composé des champs verts, coupés des bosquets d'arbres et ici et là, les toits de maisons en terre cuite qui formaient les villages. Après l'approche de Paris, l'image bucolique était assez rapidement remplacée par la masse urbaine grise où j'allais m'installer. Une fois atterri, je suis descendu de l'avion et j'ai suivi dans la queue des passagers qui traversaient le tarmac pour atteindre l'aérogare. Pour le moment, comme tous les aéroports se ressemblent, je ne détectais rien qui confirmait que j'étais bien en France. Pourtant, je n'arrêtais pas de chercher autour de moi. Puis, juste à l'entrée de l'aérogare, je passais devant un buisson où d'un coup, une petite volée de moineaux atterrissait et se mettait à prendre un petit bain de poussière. « Mais ils sont français, ces moineaux ? Mais zut, ils sont exactement comme les moineaux américains !» Hâte de ressentir quelque chose de français, je suis passé à l'intérieur, toujours à la recherche de ma première sensation d'être en France. Des voyageurs bougeaient dans tous les sens. Je savais qu'il n'y avait pas que les Français dans la foule. N'importe si c'était les Grecs ou les Argentins en voyage. Je savais que je n'étais plus aux États-Unis. J'étais en France et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Loin de l'Amérique, loin des Américains. Dans le bus qui m'emmenait vers le centre de ville, je cherchais des scènes ordinaires, quotidiennes, mais typiquement françaises. Pas vraiment un vieux monsieur avec un béret qui remonte dans sa deux chevaux avec une baguette, un camembert et une bouteille de vin rouge, mais quelque chose qui me confirmait que j'étais bien en France et pas ailleurs. Ouh, qu'est-ce que j'entends là? Bon, là, j'exagère, mais finalement, ce que je cherchais, c'était la France authentique que j'avais vue dans les films de François Truffaut, avec Jean-Pierre Léo dans le rôle de Antoine Doinel. Une vie bien plus modeste, moins pris dans le consumérisme qui ravage les États-Unis comme une drogue. À Paris, je n'arrêtais pas de remarquer des choses qui me donnaient la preuve que je n'étais plus en Amérique, les choses tout à fait ordinaires, les trottoirs avec des grilles en fer autour des arbres, les caniveaux où coulait l'eau, même la circulation de voitures et de mobylettes et taxis m'ont fasciné. Les magasins et boutiques différents de ceux que je connaissais aux États-Unis, bien sûr, mais encore plus, c'était les gens qui m'intéressaient. Je les ai observés. Ils étaient des gens normaux, mais avec la différence, ils n'étaient pas américains. Ils étaient des Européens. Leur manière de s'habiller, de marcher, de faire la queue devant la boulangerie, de s'installer sur les terrasses en train de boire un café ou un verre, fumer, se reposer. Mais le fait d'être en France n'était pas tout. Pour moi, l'important était que je n'étais plus en Amérique. Et qu'est-ce que ça me faisait de bien? Je me suis enfin échappé de ce pays, de cette société où je ne trouvais pas ma place. À l'Amérique, j'ai habité trop longtemps dans un pays qui n'était pas le mien. J'avais accumulé trop de mauvais sentiments dont je voulais me libérer. Pendant ma jeunesse, tout allait bien. Dans le Colorado, je vivais ma vie de jeune garçon. Je suis allé à l'école, je me suis amusé avec mes copains, j'avais mon vélo. Puis il y avait des problèmes avec mon père. Heureusement, il y avait un travail qui lui permettait de rentrer que le week-end. Ma mère était facile à vivre, alors toute la semaine était cool. Mon père était trop dur, trop sévère, pas drôle. Et en plus, il exigeait que j'aille à l'église. C'est là où ça commençait à aller mal. Je résistais, je protestais. Lui, il serrait de plus en plus fort. Je suis devenu de plus en plus rebelle contre lui et sa rigidité. Finalement, c'était la religion qui m'a gêné le plus. Plus jeune, j'avais essayé de jouer le jeu, mais ça n'a pas marché. Je savais que je jouais faux. Je me trouvais dans un milieu qui ne m'allait pas du tout. Entouré par des gens croyants, pour eux, c'était quelque chose de très bien. Impossible en tant qu'adolescent d'en discuter avec mon père. Il ne voulait pas m'entendre. Je n'avais qu'une option, refouler toute ma frustration et attendre le moment où j'aurais mon indépendance. Bon, pour écourter une longue histoire, cette expérience m'a donné une intolérance totale pour la religion. Même adulte, j'ai une réaction forte qui ressurgit quand le sujet de la religion se lève. Et aux États-Unis, le sujet se lève très souvent. C'est fou à quel point on voit et on entend les « God bless you »,« Que Dieu te bénisse »,« In God we trust » imprimés sur les dollars. Les hommes politiques qui se déclarent « hommes de foi ». Les prières en public et la pratique généralisée de prier avant les repas. Les t-shirts et les autocollants estampillés « Jesus loves you » on perd le principe de la laïcité, très important dans la mixité d'une société. Je peux être tolérant envers les croyants de toutes sortes, à condition qu'ils gardent leur expression de foi à l'intérieur d'eux-mêmes. Si je peux nommer une facette de la société américaine que je m'insupporte et qui m'a donné envie de quitter mon pays, c'est la manière dont la religion est exprimée par une grande partie de la population. Et pourtant, ce n'était pas la religion seule qui m'a poussé à quitter le pays. Dans les années 70, j'habitais dans la Californie. J'étais pleinement dans l'époque avec tout ce qui bouillonnait dans la société américaine et dans mes études à la faculté. Mais c'était aussi une période où j'avais appris à tout mettre en question. J'avais commencé avec la religion bien avant, mais les années 70, qui sont venues juste après l'agitation sociale de la fin des années 60, c'était pour moi le moment de formuler mes propres pensées et construire ma vie à moi. Influencé, bien sûr, par les mouvements d'anti-guerre du Vietnam, anti-gouvernement, anti-militaire, anti-racisme, anti-sexisme, anti-consumérisme, anti-pollution, anti-gaspillage, au bout d'un certain temps, après avoir bien regardé ce qui se passait dans mon pays, je me suis rendu compte que tout ce que nous faisions pour combattre les injustices et les inégalités ne servait à rien. C'était crié dans le vide. Peut-être y avait quelques prises de conscience ici et là dans la population, mais on ne pouvait pas changer sensiblement la direction. La machine était beaucoup trop grosse. Keep on loving. Believe. Avant de trop m'emballer dans le dégoût que j'avais pour l'Amérique, qu'est-ce que j'aime dans mon pays de naissance? Parce qu'il faut le proclamer haut et fort que j'aime ce pays. Évidemment, j'en ai profité de tant de choses. J'ai accumulé tant d'expériences là-bas qui ont enrichi ma vie. Dans l'appréciation de ce pays, on ne peut surtout pas passer à côté de la nature forte et généreuse que l'on trouve là-bas. Puis certains endroits iconiques, très connus, mais tant d'autres que l'on se régale à en trouver sans vraiment les chercher. Ajoutez à cela toute la pléthore de la musique américaine, beaucoup avec ses origines en Afrique. Si on enlève la musique noire américaine, il ne reste pas grand-chose. Pour moi, l'influence noire dans la musique américaine est tout simplement inestimable. Bon, à part la nature et la musique, qu'est-ce qu'il y a à aimer en Amérique? Les Américains eux-mêmes? Oui, mais attention, parce que là, dans la société américaine, plus qu'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a une très grande diversité de gens. Déjà, dû au fait que tous les Américains, à part les Amérindiens, sont des immigrés. Tout le monde là-bas a des origines quelque part en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, ce qui donne une population américaine très hétéroclite. Malgré cette diversité dans les origines, on trouve chez les Américains beaucoup de liens communs. Ce sont les Blancs européens qui sont arrivés en premier pour s'y installer dans ce nouveau monde et pour dominer cette terre sauvage et les Amérindiens avec. Quelque part, c'est eux qui avaient mis le ton. Déjà avec leur esprit de vainqueur, leur valeur formée dans leur religion chrétienne et l'éthique de travail qui leur avait poussé à imposer une morale qui est omniprésente encore aujourd'hui partout dans le pays. Mais avec tous ses défauts et ses qualités, c'est le pays que tout le monde aime et déteste à la fois. On l'aime parce qu'il a quelque chose qui nous fascine. Ça bouillonne, l'attitude de vivre dans l'insouciance, l'absence de sérieux, la notion de l'indépendance, de la liberté. C'est évident dans tant d'aspects de la vie américaine. On le ressent surtout dès qu'on prend la route, les grands espaces, les routes larges et sans fin.
The beautiful spacious skies, the amber waves of grain, to the majestic purple mountains above the fruited plain. God did shed his grace from sea to shining sea on you and on me. From the Sleepy Hollow mountain country to the swamps in Oakland Oak, to Guthrie, Oklahoma, to Hibbing, Minnesota, to Grants Pass, Oregon, to Stovepipe Wells, California, from Texas to Montana, from California to Maine. In the sunny days, the winter snow, from Arizona sand to Cherokee, North Carolina, to Tarpon Springs, Florida. America, it's time to be refreshed, recalled to memory. God did shed his grace on thee from sea to shining sea. The land is big, the best is free, sand and surf, grass and tree. From sea to shining sea.
God shed his grace on me and crowned thy good with brotherhood from sea to shining sea.
Bon, c'est tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Et un big merci à Nico à la prise de son aujourd'hui, ainsi que les autres techniciens, Pierre-Alain, Peyo, Samuel et Arnaud. See you next time. Goodbye.